Lisons donc Jérémie, chapitre 30, et je vais lire la majeure partie de ce chapitre, les versets 1 à 22. Jérémie, chapitre 30, les versets 1 à 22, à partir du verset 1. Message que l'Éternel communiqua à Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Car voici que le temps vient, dit l'Éternel. En ce temps-là, je briserai le joug pesant sur leurs épaules, j'arracherai leurs liens et ne seront plus esclaves d'étrangers. Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi, que je leur donnerai. Et toi, Jacob, mon serviteur, sois donc sans crainte, déclare l'Éternel. Non, n'aie pas peur, ô Israël, car moi je vais te délivrer de la terre lointaine. Toi et tes descendants du pays de l'exil. Oui, Jacob reviendra. Il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Personne ne l'inquiétera. Car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de tous les peuples chez lesquels je t'ai dispersé. Mais je ne ferai pas table rase de toi. Cependant, je te châtierai selon ce qui est juste. Je ne te laisserai certainement pas impuni. Car voici ce que l'Éternel déclare, ta plaie est incurable, ta blessure est très douloureuse, et il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il ne se trouve aucun remède pour ton ulcère, il n'y a pas pour toi de guérison. Tous tes amants, Jérusalem, t'ont oublié, ils ne se soucient pas de toi, car je t'ai accablé de coups comme ferait un ennemi. Je t'ai cruellement châtié, car ton crime est énorme et tes fautes nombreuses. Pourquoi te plains-tu donc de ta blessure, de ce que ta douleur soit si aiguë? Je te l'ai infligé pour tes crimes énormes et tes fautes nombreuses. Mais ceux qui te dévorent seront tous dévorés. Et tous tes oppresseurs s'en iront en exil. Ceux qui t'auront pillé seront pillés eux-mêmes. Oui, ceux qui t'auront dépouillé seront à leur tour dépouillés. Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, Sion dont nul ne se soucie. Voici ce que déclare l'Éternel. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob, et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Du milieu d'eux s'élèveront des accents de reconnaissance, on entendra des rires. Je les multiplierai, leur nombre ne décroîtra plus. Je les honorerai, ils ne seront plus méprisés. Ceux qui descendent de Jacob seront comme autrefois, et leur communauté devant moi sera stable. Je punirai tous ceux qui les oppriment. Leur chef sera l'un d'eux. Leur souverain sortira de leur rang. Je le ferai venir et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi? Demande l'Éternel. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Jusqu'ici, l'Écriture. Nous vivons dans une culture de l'immédiat et nous connaissons bien cela, il me semble. Je me trouve à la caisse, il y a deux personnes devant moi, qu'est-ce que je fais? Tout de suite, je sors mon téléphone pour aller regarder encore un email ou un message sur WhatsApp ou autre. Une page internet, une page web met plus de 2 ou 3 secondes à charger, je m'impatiente déjà. Telle chanson me revient en tête pendant la journée, vite dès que j'ai l'occasion, je vais sur Spotify pour l'écouter. L'immédiat règne en maître. Et au-delà de ces aspects un peu anecdotiques, on sait que cette culture de l'immédiateté, elle a son côté sombre, et plus d'un côté sombre. Elle mêle des problèmes d'attention qu'on constate chez les jeunes enfants, et la difficulté de leur apprendre des vertus comme la patience et la persévérance. Ce n'est pas que les jeunes enfants d'ailleurs qui sont concernés par cela. On pourrait parler aussi du déclin des petits commerces et d'un certain vivre ensemble. On pourrait parler de la crise écologique due à l'hyperconsommation. On pourrait parler de l'explosion du marché de la pornographie, etc. etc. Il ne fait pas toujours bon vivre dans un monde où tout est immédiat. Or, la vie nous impose des attentes. Et si à certains, peut-être, ça ne paraît pas actuellement vrai ou pertinent, ce sera à coup sûr dans diverses circonstances de votre vie. Comment vivre ces attentes ? Et comment vivre en particulier les attentes difficiles, les attentes dans l'épreuve ? Au chapitre 29, nous avons vu hier que les exilés judéens à Babylone, au 7e siècle avant Jésus-Christ, ont appris que leur retour d'exil n'aurait lieu que 70 ans plus tard, contrairement aux 2 ans à peu près qu'ils espéraient. Et nous avons parlé hier du choc que cela a dû représenter pour les premiers auditeurs qui trépignaient d'impatience de rentrer au pays et qui apprennent qu'ils vont devoir passer le restant de leur vie en exil. Nous avons parlé aussi de la feuille de route que Dieu leur a donnée pour vivre et pour optimiser ce temps d'exil. Vivre dans la confiance en Dieu, vivre en bénédiction pour ceux et celles qui les entourent, y compris même les Babyloniens, leurs ennemis qui les ont déportés. La feuille de route est donnée, mais il ne faudrait pas oublier, bien sûr, ce contexte d'épreuve dramatique vécu par un peuple vaincu et déraciné. Et on l'entend aussi en entendant cette lecture que j'ai faite d'un chapitre où il y a beaucoup de paroles dures qui disent la sévérité du jugement de Dieu. Comment continuer à vivre dans l'espérance quand on sait que l'attente sera longue et que la souffrance est au rendez-vous ? Comment avancer quand la vie n'est pas finalement ce qu'on imaginait qu'elle serait, quand on doit faire avec une forme de frustration, voire de déception sur les circonstances que nous vivons ? Des questions qui peut-être résonnent à nos oreilles également. Eh bien, ce chapitre 30 va donner aux exilés judéens des ressources pour tenir bon dans leur exil, pour tenir bon dans l'espérance. Et on va relever 3 encouragements que Dieu communique à son peuple dans ce texte, pour leur donner des raisons de vivre et d'espérer. Et comme pour le chapitre 29, j'espère que nous pourrons voir la pertinence de ces choses pour nous encore aujourd'hui dans notre contexte si différent. Le premier encouragement qui est donné aux exilés dans ce texte, c'est le témoignage de la parole de Dieu. Au verset 2, nous voyons Dieu donner cette instruction à Jérémie, consigne par écrit dans un livre tout ce que je t'ai dit. Et ce message que Jérémie doit écrire correspond, estime de façon assez consensuelle les spécialistes, à toute la section qui va suivre, l'ensemble des chapitres 30 et 31. Des chapitres qui, même s'il y a dans ce chapitre 30 encore des paroles dures, sont tout de même convergent vers l'espérance et la délivrance des exilés et leur retour au pays. Et l'annonce du verset 3 est en quelque sorte un résumé de ce message. Car voici, le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda. Voilà la grande nouvelle qui résonne aux oreilles des exilés à Babylone qui entendent Dieu leur dit qu'il n'a pas oublié ses projets, on l'a vu déjà au chapitre 29, et qu'il va ramener les captifs de son peuple. Dieu demande à Jérémie de communiquer donc par écrit, Jérémie lui est encore à Jérusalem, donc il écrit une lettre, communiquer par écrit ce message de délivrance, et donc Jérémie s'exécute à partir du verset 4, lorsqu'il écrit « Voici ce que l'Éternel a dit au sujet d'Israël et de Juda. » Et on va découvrir ensuite le contenu de ce message de Dieu mis à l'écrit par le prophète. Jusqu'ici, il faut le dire, le livre de Jérémie est un livre assez sombre, globalement. Dieu a déclaré que son peuple Israël serait de façon imminente jugé et conduit en exil, et que cette décision est irrévocable. Le peuple est allé trop loin dans son idolâtrie, trop loin dans son mépris de Dieu. Écoutons, alors on l'a vu déjà dans le texte que j'ai lu, dans ce chapitre 30, mais écoutons aussi cette section, par exemple, du chapitre 7. « Quant à toi, Jérémie, ne prie pas pour ce peuple. » Vous imaginez ? ne prie pas pour ce peuple, ne prononce en sa faveur ni supplication ni requête. N'intercède pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas tout ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux pour la reine du ciel. On offre des libations à des dieux étrangers, et tout ça mérite. Est-ce moi qu'ils offensent, demande l'Éternel? Non, c'est plutôt eux-mêmes à leur plus grande honte. C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, mon ardente colère et mon indignation vont fondre sur ce lieu, sur les gens et les bêtes, sur les arbres des champs et les produits du sol, et elles brûlent comme un feu qui ne s'éteindra pas. Des paroles terribles. Ne prie pas pour ce peuple, Jérémie. Il est allé trop loin, c'est trop tard. Ma colère ne s'éteindra pas. Pour la génération de Jérémie, en tout cas, le jugement de Dieu était inéluctable. Et, on l'a déjà dit un petit peu hier, comprenons bien que l'exil est un jugement hautement symbolique. Le peuple à qui Dieu avait donné la terre de Canaan, devenu le pays d'Israël, s'est montré indigne de cette terre. Nous l'aurions été tout autant à leur place. Parce que c'est le même problème, le péché. Le peuple s'est montré indigne de cette terre et Dieu va donc l'en déloger. Le temple par lequel Dieu manifestait sa présence au cœur de ce peuple va être détruit. La tragédie qui se déroule avec cet exil babylonien, en plus d'être un drame humain, est donc symboliquement accablante. Et on pourrait se dire que Dieu a définitivement tourné la page de ce peuple. Mais à partir du chapitre 29, le vent commence à tourner, alors qu'on ne s'y attend plus. La lumière commence à percer dans les ténèbres. Dieu dit que l'exil sera long, mais qu'il se terminera un jour. Il y aura une délivrance. Maintenant, la question se pose. Pourquoi est-ce que Dieu commence, au chapitre 30, par demander à Jérémie d'écrire tout cela, d'écrire ses prophéties, et de les consigner dans un livre, de les garder pour le long terme? C'est plutôt un livre ici, c'était une lettre au chapitre 29. Eh bien, c'est une manière pour Dieu de s'engager solennellement. Les temps sont durs, l'épreuve est abondante, et douloureuse, pardon. On peut dire que l'épreuve est abondante, si on veut. L'épreuve est douloureuse, mais Dieu tiendra ses promesses. Et c'est comme s'il disait, allez-y, vous pouvez l'écrire, cette promesse. Vous pouvez méditer ses paroles, parce que ce que je promets se réalisera. Voici ma promesse, dit l'Éternel, je la signe, je m'engage par écrit. Lors de la dernière élection présidentielle, une personnalité politique, maire d'une très grande ville de France, s'est déclarée candidate à l'élection. Et des esprits chagrins ont retrouvé une vidéo de cette personne disant un an plus tôt « Je ne serai pas candidate à la présidentielle, vous pouvez archiver cette vidéo. » Dont acte. Effectivement, des gens avaient archivé la vidéo et ont pu la ressortir à ce moment-là. On pourrait trouver bien des exemples de cela en politique et de tous les bords. Et pas seulement en politique, malheureusement. La parole humaine, n'est-ce pas, est souvent bien légère. Animée par l'intérêt de l'instant, bien plus que par une sagesse durable. Parfois le cas dans nos églises aussi. Mais la parole de Dieu est plus fiable que la nôtre. Et heureusement, infiniment plus fiable. Et donc lorsque Dieu, lui, nous dit « Mets par écrit cette promesse, vous pouvez l'archiver », eh bien, il la laisse comme un gage pour son peuple, comme une garantie. La Bible, plusieurs fois, résonne en ces termes, un dépôt de garantie que Dieu nous donne. Même dans l'épreuve, le peuple va pouvoir trouver joie, force et espérance dans les promesses de Dieu. Peut-être que les premiers lecteurs de Jérémie ne reverraient pas leur pays, mais leurs enfants ou petits-enfants, sans doute. Et effectivement, 70 ans plus tard, le retour d'exil aura bien lieu sous le roi perse, Cyrus. Alors vous me direz peut-être, d'accord, mais en 2023, en France, est-ce qu'on n'est pas un peu loin de toutes ces histoires quand même? Pourtant, cette parole que Jérémie a mise par écrit, nous l'avons toujours. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ce matin même? On est en train d'en parler. Nous sommes en train de méditer précisément ce texte que Jérémie a mis par écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce qu'on prend conscience de l'incroyable pérennité de ces mots mis par écrit dans une histoire tellement ancienne? Et si nous en parlons encore, c'est pas juste par intérêt historique, j'espère. Mais c'est parce que ces promesses vont plus loin que le simple retour d'exil des Judéens et des Israélites. Et elles nous concernent aussi. Pourquoi? D'abord parce que cette promesse, elle s'inscrit dans un fil conducteur de promesses et de délivrance. De promesses de grâce et de délivrance. Que Dieu a toutes tenues. Et on peut faire la liste si on regarde toutes les promesses de la Bible. Bénédiction d'Abraham et sa descendance. Libération d'Égypte. Libération de l'exil. Naissance du Messie. Pardon des péchés. Sacrifice parfait. Résurrection du Messie. Don du Saint-Esprit. Tout cela avait été promis. Et tout cela, Dieu l'a accompli. Dieu tient toutes ses promesses. Le timing lui appartient. Et son timing, c'est pas le nôtre, très souvent. Mais sa parole est ferme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous pouvons fonder nos vies sur les promesses de Dieu. Et nous bénéficions du témoignage écrit, non seulement de Jérémie, mais de tous ceux que Dieu a suscités pour mettre sa parole par écrit, que nous avons dans les Écritures, la Bible. En lisant, en écoutant, en méditant la Bible, nous sommes appelés à voir en évidence ce fil conducteur de promesses. Et c'est l'occasion de nous rappeler, si nous passons par un temps de découragement dans la méditation de la parole. Alors vous, ça vous arrive sans doute jamais, mais moi ça m'arrive parfois. Si nous passons par un temps de découragement dans la méditation de la parole, de nous rappeler combien il y a une corrélation indiscutable, il me semble, entre le temps passé dans la parole et la santé spirituelle. Ce que je vais dire va peut-être paraître un peu simpliste, mais quand même, je connais très peu de personnes qui, tout en méditant régulièrement la parole de Dieu, vivent une foi superficielle, chaotique ou déclinante. Des questionnements, oui, il y en a bien sûr. Des moments plus difficiles, absolument. Et tout ça n'est pas une mauvaise chose. Dieu utilise aussi cela pour nous faire grandir, comme de l'exercice physique un peu, qui est difficile sur le moment, mais qui nous renforce, qui nous affermit. Et puis, il y a aussi des temps de recul, même dans une vie chrétienne mûre, des temps où nous sommes plus tentés qu'à d'autres par le péché qui nous cerne si facilement. Donc oui, la vie chrétienne n'est absolument pas linéaire. Enfin, elle l'est dans un sens ultime, mais elle n'est pas à un instant T. Mais en Jérémie 30, Dieu rappelle que dans un temps d'épreuve et d'attente, son peuple aura besoin de revenir encore et encore à la parole. Et c'est notre besoin aussi, à nous tous. Nous sommes tout aussi concernés par cela dans notre exil à nous, dont nous avons commencé à parler hier. Car l'autre raison pour laquelle ce texte nous concerne encore aujourd'hui, c'est que la trajectoire des Judéens, péché, exil, délivrance, c'est notre trajectoire à nous également. Et ça nous conduit au deuxième point, la promesse de restauration. Vous l'avez entendu tout à l'heure, plusieurs sections de ce chapitre sont assez dures. Verset 5, nous avons entendu des cris d'effroi, c'est l'épouvante et non la paix. Malheur, quel jour terrible, c'est un temps de détresse pour les descendants de Jacob. Tout ça, c'est dans le contexte de l'exil, la déportation. Verset 12, ta plaie est incurable, ta blessure est très douloureuse et il n'y a personne qui prenne en main ta cause. Il n'y a pas pour toi de guérison. Vous me direz que pour l'espérance, on repassera. Mais pour bien comprendre les promesses qui vont suivre, il faut être au clair sur la situation dramatique du peuple de Juda. Malgré les circonstances apparemment correctes de la vie à Babylone pour les exilés, leur exil reste un drame. Et le drame est pire encore pour ceux qui sont restés au pays. Ils ont été envahis par une grande puissance, ils ont été assiégés, réduits à la pauvreté. L'élite et les forces vives du pays ont été emmenés en exil de force. Le pays vit un effondrement national. Il y a des pays dans le monde actuellement qui vivent des formes d'effondrement national. J'en citerai deux par exemple. Le Liban, un pays que je connais bien pour raison familiale. On pourrait citer aussi Haïti. La situation actuelle est dramatique. Il y en aurait d'autres évidemment qu'on pourrait citer malheureusement, mais ces deux pays sont dans des situations particulièrement frappantes d'effondrement à tout point de vue, politique, économique, infrastructurel, social, sanitaire, éducatif, etc. Même si le contexte historique n'a rien à voir, on fait face aussi dans notre texte à ce type d'effondrement généralisé. Alors oui, les mots sont durs, mais parfois il faut des mots durs. Parfois il faut mettre des mots durs sur les choses. La Bible ne nous invite jamais à édulcorer la réalité. La culture évangélique le fait assez souvent, mais la Bible ne le fait jamais. Et quand les choses vont mal, elle sait le dire. Mais pour faire face à une détresse profonde, il faut une espérance plus profonde encore. Et c'est précisément cela que Dieu nous offre. Et cette espérance, elle est fondée sur ses promesses. Qu'est-ce qu'il promet dans ce texte? Un mot peut résumer l'idée générale, restauration. Restauration du peuple d'abord. Ils retrouveront leur pays et, verset 8, ils ne seront plus esclaves d'étrangers, ils seront serviteurs de l'Éternel, leur Dieu. Romains chapitre 6, nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes maintenant esclaves de la justice. Restauration de la paix ensuite, fin du verset 10. Oui, Jacob reviendra, il jouira de la tranquillité et d'une vie paisible. Restauration de la ville, de l'infrastructure, au verset 18. Moi, je vais restaurer les habitations de Jacob et j'aurai compassion de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. Et puis nous y reviendrons. Restauration de la royauté, au verset 9 à 21. Dieu invite les exilés à considérer les ruines de leur situation et à attendre, par la foi, le jour où tout ça reprendra vie, où la paix et la joie seraient de retour. Croire dans le Dieu de la Bible, c'est aussi cela, c'est considérer les ruines de notre monde, mais ne pas oublier que Dieu, notre Créateur, a promis de tout restaurer. J'évoque cette image des ruines, notamment parce que j'ai entendu une fois le théologien bien connu, Henri Blocher, donner cet exemple que je trouve très parlant. C'était à l'oral, je ne sais pas s'il l'a écrit quelque part, mais celui d'une ville en ruine pour décrire notre monde déchu à cause du péché. On peut penser aux images qu'on a vues, par exemple, de Mariupol en Ukraine. On fait face à une version totalement abîmée, dévastée même, de la ville. Et pourtant, si on regarde bien, alors, Mariupol, on ne connaît peut-être pas très bien, mais si on regarde bien, on peut discerner ce qui aurait dû être. On peut reconnaître les formes d'origine des monuments dévastés. On peut deviner à quoi pouvait ressembler, à quoi pourrait ressembler la ville reconstruite. Le réflexe évangélique est parfois de vouloir s'échapper du monde. Mais la Bible nous invite plutôt à voir autour de nous un monde créé, déchu, mais qui sera un jour restauré. La Bible nous promet une nouvelle terre. Et cela s'applique à toute la vie. Espérer en Dieu, c'est voir nos relations meurtries si souvent, et aspirer de tout notre cœur au jour où elles seront réparées et où elles nous combleront parfaitement. Espérer en Dieu, c'est voir le mal qui sévit autour de nous et aspirer au jour où le mal sera définitivement jugé et éradiqué. La mort ne sera plus, il essuiera les larmes de tous les visages. Ésaïe 25. Espérer en Dieu, c'est voir nos corps et nos esprits affaiblis et aspirer au jour où Dieu nous accordera la vie dans toute sa force et pour toujours. Espérer en Dieu, c'est regarder le monde et nos vies avec les yeux de la foi. C'est prendre la mesure de ce que le monde aurait dû être et ce que nous aurions dû être sans la révolte de l'homme contre Dieu. Mais c'est voir aussi tout cela. C'est voir aussi que nous serons grâce au ce que nous serons un jour, grâce au pardon que nous offre Jésus-Christ. Voilà l'espérance. Voir ce que nous serons et voir ce que ce monde sera un jour. Aujourd'hui, la souffrance, elle est là, mais les promesses de Dieu nous disent que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Et c'est vrai pour les épreuves que vous êtes probablement en train de vivre pour certains. On ne prend jamais trop de risques en disant que certains vivent des épreuves. C'est vrai pour vos épreuves aussi. En Jésus-Christ, elles n'auront pas le dernier mot. Et les promesses que Dieu fait dans ce texte à son peuple d'origine, le peuple d'Israël, résonnent encore pour nous aujourd'hui. Parce que la Bible montrera de bien des manières que non seulement Israël, mais toutes les nations seront invitées à connaître cette profonde restauration auprès de Dieu. La promesse du retour d'exil va s'accomplir, mais elle est porteuse d'autres accomplissements plus lointains, plus grandioses. C'est encore discret dans ce chapitre, mais il y a quelques indices. Le roi libérateur dont nous parlerons dans un instant, la réconciliation entre Dieu et son peuple, verset 9, l'établissement d'une paix définitive, verset 10, verset 11. Dans le chapitre suivant, ces horizons plus lointains de l'accomplissement des promesses seront plus explicitement révélés. Et nous verrons ça demain si Dieu nous prévient. Car ce que la Bible montre, c'est que la restauration de Dieu, elle se déploie à plusieurs époques. La restauration, la délivrance de Dieu se déploie à plusieurs époques et de plusieurs manières et dans plusieurs dimensions en quelque sorte. Un spécialiste de l'Ancien Testament, Christopher Wright, auteur d'un très bon commentaire sur Jérémie, qui a été traduit en français et qui est en vente, sauf erreur, dans les stands. Christopher Wright écrit ceci dans son commentaire à propos de la différence entre promesse et prédiction. Voici ce qu'il écrit. La promesse a la capacité de continuer à s'accomplir selon des modalités qui peuvent évoluer au gré des circonstances, alors que la prédiction soit s'accomplit, soit ne s'accomplit pas. J'explique ce que ça veut dire. Par exemple, quand un homme et une femme se marient, ils ne se prédisent rien. Le jour de la cérémonie, on ne va pas les entendre dire « Nous aurons deux enfants, un pavillon, une machine d'espresso, un chien. » Et on n'entend pas dire ça. Ça serait des prédictions. Non, ils se disent « Je t'aimerai. Je serai là pour toi. Nos vies seront liées quoi qu'il arrive. Et je ferai de toi la personne prioritaire pour moi jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Et ça, c'est une promesse. On ne sait pas comment elle va s'appliquer concrètement dans les circonstances de la vie. Elle va s'appliquer dans diverses situations et de diverses manières. C'est une promesse et pas une prédiction. Eh bien, Dieu, dans la Bible, fait rarement des prédictions. Il y en a de temps en temps, comme les 70 ans. Mais globalement, Dieu préfère presque toujours faire des promesses. Il ne nous dit pas forcément ce qui se passera dans les détails, mais il s'engage personnellement envers nous. Il sera là, il nous pardonnera, il nous restaurera, il nous guérira. Et cette promesse de présence et de restauration se déploiera à plusieurs moments et de plusieurs façons. Est-ce que nous sommes prêts à fonder nos vies, non pas sur des prédictions de Dieu que nous aimerions peut-être avoir, mais sur les promesses de Dieu? Or, les promesses que Dieu nous a adressé en Jésus-Christ sont merveilleuses. Matthieu 28, 20. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Romains 8, verset 38 et 39. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Et celle qui, dans un sens, les résume toutes, c'est peut-être mon verset préféré dans la Bible. 2 Corinthiens 1, 20. C'est en lui, en Christ, que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. C'est en Christ que Dieu a dit oui à toutes ses promesses. La foi à laquelle Dieu nous appelle aujourd'hui n'est pas une foi générique ou impersonnelle. C'est une foi personnelle, au contraire, dans un sauveur qu'il a envoyé pour restaurer la relation brisée entre lui et nous. Et cette promesse d'un sauveur, nous la trouvons discrètement, mais clairement, dans notre texte. Ce sera notre troisième et dernier temps de réflexion, l'attente du roi sauveur. Au verset 9, Dieu annonce ceci à propos de l'avenir de son peuple. Ils seront serviteurs de l'Éternel leur Dieu et de David leur roi, que je leur donnerai. Qu'est-ce qui cloche dans cette phrase? C'est la chronologie. Le célèbre roi David, le grand roi d'Israël, est mort depuis 3 siècles au moment où Jérémie écrit ses lignes. C'est un peu comme si on nous disait que Louis XIV va bientôt venir régner sur la France. Pas de commentaire politique, s'il vous plaît. erreur de chronologie?
Non, bien sûr.
Comme dans quelques autres textes de l'Ancien Testament, c'est un nouveau David qui est promis. Dans le deuxième livre de Samuel, Dieu annonce au roi David que sa descendance sera éternelle. Et c'est une promesse qui, sur le moment, peut sembler extravagante pour le roi d'un territoire qui faisait même pas la taille de la Bretagne. Une descendance éternelle. Et plus encore, dans les psaumes 2 et 110 en particulier, Dieu annonce la venue d'un roi descendant de David qui régnerait sur toutes les nations. Et, psaume 110, qui serait également sacrificateur, qui effacerait les péchés des hommes. Or, que nous dit Jérémie lorsqu'il parle de ce David à venir au verset 21? Leur chef sera l'un d'eux, leur souverain sortira de leur rang, je le ferai venir, et il s'approchera de moi. Autrement, qui aurait l'audace de s'approcher de moi? Le Seigneur annonce ici un roi qui pourra s'approcher de lui, entrer dans sa présence et se faire l'intermédiaire entre lui et un peuple qui en est indigne. Et si ce roi a pour rôle de s'approcher de Dieu et d'être médiateur entre le peuple et Dieu, ça revient à dire qu'il sera également un prêtre. Un roi réconciliateur, sacrificateur. Un roi qui va rétablir l'accès à la présence de Dieu. Et donc cette annonce que nous trouvons ici, elle converge avec ces autres textes qui nous parlent d'un roi prêtre qui rétablirait pour toujours la relation entre Dieu et son peuple, en particulier le psaume 110. Et l'Épître aux Hébreux dans le Nouveau Testament a beaucoup développé cela. Ainsi, le peuple de Juda en exil est invité à se réjouir du jour où un nouveau roi les conduira vers Dieu. Un roi capable non seulement de délivrer le peuple, mais aussi et surtout de le restaurer spirituellement. Et le chapitre suivant nous en dira plus sur cette restauration spirituelle. Maintenant, si on regarde la suite de l'histoire biblique, on notera que lors du retour d'exil, qui a effectivement eu lieu, encore une promesse que Dieu a tenue, il a effectivement eu lieu quelques décennies après ce texte, mais la royauté, elle n'a pas été restaurée. Le pays de Juda a été dirigé par une petite élite, des gouverneurs qui étaient sous la tutelle de l'Empire perse. Ainsi, cette promesse, elle doit concerner un horizon plus lointain. Ce roi descendant de David, réconciliateur du peuple d'Israël avec Dieu, mais qui, selon d'autres textes, régnerait sur toutes les nations, eh bien ce roi, il faudra l'attendre encore plusieurs siècles. Les exilés étaient invités à attendre dans l'espérance, se réjouissant à l'avance de ce jour où Dieu inaugurerait un royaume inébranlable. Mais le Nouveau Testament proclame que ce roi, il est venu en la personne de Jésus. Le royaume que Jésus a inauguré ne ressemblait pas aux attentes de ses contemporains, ni aux nôtres. Là encore, on voit que Dieu n'a pas fait de prédiction précise, mais une promesse qu'il a tenue à sa façon, en dépassant toutes les attentes, et en les prenant aussi à contre-pied. Or, ce royaume de paix, inauguré par Jésus, il passe par un changement radical d'orientation de la vie, vers l'humilité, l'amour du prochain, le pardon, l'espérance, un nouveau cœur. Là encore, on en parlera demain, je vais vous donner envie de revenir. Une autre façon d'être et de penser. Et si nous sommes chrétiens, nous croyons que Dieu a tenu cette promesse par la venue de Jésus. Sa mort sur la croix par laquelle il a accompli le sacrifice parfait pour effacer nos péchés, sa résurrection par laquelle il a vaincu la puissance du mal et de la mort, en enlevant tout ce qui nous séparait de Dieu. Contrairement aux exilés judéens, nous n'avons plus à attendre que Dieu nous envoie ce roi, car il est déjà venu. Jésus est déjà venu jusqu'à nous, jusque dans notre condition humaine. Mais nous attendons encore le dernier horizon prophétique, nous attendons encore l'ultime déploiement de la promesse de Dieu. Ce jour où le roi sauveur Jésus reviendra après avoir rassemblé son peuple par la foi, un peuple constitué de juifs et de non-juifs, de toutes les nations, et établira définitivement un monde réconcilié avec Dieu. Pour les générations Google que nous sommes, et j'inclus tout le monde, je pense, parce qu'en fait on utilise tous Google quasiment sans doute, pour la génération tellement habituée à l'immédiat, est-ce que nous avons de la place dans nos vies pour l'attente? L'attente, en particulier, qui est au cœur de notre foi. l'attente du retour de Jésus. En sortant de chez nous, en allant au travail, à l'école, dans nos différents lieux de vie, en allant à l'église, en vivant notre quotidien comme tout le monde, est-ce que nous sommes portés par cette profonde assurance que la vie, la paix, la grâce auront le dernier mot? Parce que Dieu tient ses promesses. Il n'a pas fait des prédictions sur quand et comment, très précises, mais il tiendra ses promesses. Est-ce que nous sommes, en conséquence, habités par une paix qui vient de savoir que tout a déjà été accompli pour nous, nous attendons le déploiement de la promesse et nous sommes appelés, comme nous l'avons vu hier, à nous inscrire dans ces promesses et dans ces projets de Dieu pour nous. Et donc, nous n'avons pas à rendre notre vie valable, parce que Dieu l'a définitivement rendue valable pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à vivre en étant déjà ancrés dans cette paix, tout en attendant l'établissement de cette paix aux yeux de tous? Dieu s'inscrit dans le temps long. Il nous fait attendre, mais il tient ses promesses. Alors n'ayons pas peur de construire nos vies sur ses promesses. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu qui tient ses promesses. Et en Jésus-Christ, tu as dit oui à toutes tes promesses. Et par ton Saint-Esprit, tu as placé dans nos cœurs cette nouvelle alliance dont nous parlerons demain et par laquelle nous apprenons à te connaître, car tu es venu toi-même imprimer ta présence dans nos vies et tu nous transformes de l'intérieur malgré toutes nos résistances et tous nos manquements. Notre Dieu, notre Père, aide-nous à recentrer toujours nos regards sur toi, sur ta parole, et à tirer de cette parole consignée par écrit pour nous, cette parole que tu as signée solennellement pour nous, aide-nous à en tirer l'espérance dont nous avons besoin pour continuer d'avancer dans un monde si souvent décevant, si souvent difficile, mais un monde qu'un jour tu restaureras pleinement, et nous avec, dans le nom de Jésus. Amen.